brestoise, joyeuses fêtes et bienvenue pour ce 21 plus 1e épisode de Brest en l'air où je suis rejoint pour la dernière fois de l'année par Fanch.
Salut Quentin, salut à tous.
Et pas de Yann aujourd'hui puisqu'il manque son premier podcast de la saison. Et un podcast finalement un peu exceptionnel, hein, donc on ne lui en tiendra pas compte à la fin de la saison.
Il a été plutôt régulier quand même.
Oui, très, très solide sur les appuis.
Écoute, il a travaillé ce podcast malgré son absence.
C'est ça. Donc, vous connaissez le sujet de ce podcast. Donc, il nous a fait son équipe de la décennie également. Donc, on la citera aussi au cours de ce podcast. Du coup, ça fait un podcast raté pour chacun d'entre nous. Donc, tout le monde est quitte. C'est bien. Alors, au programme de cet épisode, un peu de Montpellier, un tout petit peu de news et surtout beaucoup d'équipes de la décennie. 2019 se termine et les années 2010 avec. Donc c'est l'occasion de regarder un peu dans le rétroviseur et de s'offrir un peu un podcast différent, disons. Parce que ça fait toujours plaisir de sortir de la routine, que ce soit pour vous ou bien même pour nous. On commence tout de suite par ce Montpellier-Stade Brestois, rapidement. On va faire un petit débrief très concis de la défaite, de la lourde défaite à Montpellier. Mais de la vie générale et d'une autre, du mien en tout cas, je vais te demander le tien, Fanch, défaite assez sévère par rapport au contenu proposé par le Stade Brestois.
Défaite sévère, effectivement, quand on voit que le gardien de Montpellier obtient la note de 7 dans l'équipe le lendemain, ça veut dire qu'il a été mis à contribution déjà par les joueurs brestois. Mais au-delà de ça et au-delà de ce manque d'efficacité, c'est quand même, je trouve, assez un manque d'efficacité dans les deux zones décisives dans le foot. Il y avait une interview assez intéressante de Didier Deschamps avec Jérôme Rotten sur RMC vendredi, où Rotten demandait à Deschamps vraiment qu'est-ce qui avait fait la différence pour remporter la Coupe du Monde. Il a dit, on a été ultra efficace dans les deux surfaces. Et je trouve que c'est ce qui manque à Brest, surtout à l'extérieur, c'est l'efficacité aussi bien offensive. On a besoin de beaucoup d'occasions pour marquer en ce moment, sauf contre Strasbourg, où là vraiment c'était porte ouverte. Et défensive surtout, où j'ai l'impression qu'à l'extérieur, chaque action montpelliéraine en fait a fait but. Chaque frappe, chaque opportunité s'est traduite en but, alors que nous, on aurait pu faire un 2-2 ou un 3-3, et finalement ça finit en 4-0. Et, le problème c'est que c'est pas un accident, c'est que c'est quand même régulier, et à Marseille, ainsi qu'à Lille, hein, sans un grand Gauthier Larsonneur, l'addition a été aussi salée, elle a été également à Monaco, à Angers elle aurait pu l'être également. Donc voilà, vraiment un gros bémol sur les performances brestoises à l'extérieur, même si, hein, comme tu dis, comme Yann le disait aussi, lui, il partageait l'idée qu'à l'extérieur, on produisait des choses intéressantes parfois, mais c'est trop inconstant, et surtout, c'est pas efficace du tout.
On s'est clairement tiré des balles dans le pied, plusieurs là pour le coup.
Il suffit de regarder les buts, hein. Vraiment, il y a facilement 2-3 cadeaux, plus un pénalty qui est quand même relativement généreux, je dirais. On n'est pas gâté par la VAR sur le match entre le but refusé et le pénalty de Brennan Chardonnay qui finalement ne peut pas faire grand chose d'autre.
Non, c'est ça.
Il a des bras, quoi, et il est bien obligé de les mettre quelque part. Du coup, ça tue un petit peu le. Après, voilà, le premier but, déjà, on sait que dans un match de foot, surtout l'extérieur, le premier but est primordial. Hein.
Surtout face à une équipe très solide à domicile, très solide défensivement.
Tu encaisses un but sur une erreur de relance aussi flagrante. Bon, Après, se pose la question aussi du système de jeu. Ça avait marché contre Bordeaux, hein, de jouer avec 5 ou 3 défenseurs selon l'animation. On ne peut pas dire que Dalloglio ne tente pas quelque chose pour enrayer la série extérieure, mais... force de se constater que là, c'est pas très efficace.
Alors déjà, il y avait eu un premier coup dur avant le match, puisque avec le forfait de Gaëtan Charbonnier, qui oui. Ne nous a sûrement certainement pas aidé. Mais oui. Justement, tu parlais des choix d'Olivier Dalloglio. Il a fait son autocritique juste après le match, ce qui est assez agréable par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir avant lui à ce poste.
C'est vrai que l'autocritique, Jair, je ne sais pas si tu as vu à Auxerre, hein, mais... Là, il a allumé tout le monde, mais tout le monde, l'entourage, les joueurs, enfin, tout le monde s'est fait allumer. Et par contre, lui et son staff, remise en question, zéro. C'est vrai que c'est plutôt agréable, comme tu dis, de voir que Dalloglio s'insère justement dans cette réflexion et dans l'idée selon laquelle on manque de solutions. Et lui-même dit que voilà, il a été responsable, lui le premier d'ailleurs, lui le premier a été responsable de cet échec à Montpellier.
Mais en nuançant, effectivement, on a donné la victoire, hein, presque. C'est Noël un peu avant l'heure, mais dans le contenu, on a montré quand même des choses plus intéressantes que contre Lille et Marseille. C'est peut-être bon signe. Le coach a bien dit qu'on démarrait par 3 matchs à l'extérieur l'année de 2020. On va voir ce qu'on a dans le ventre là, face à des équipes un peu plus à notre portée, dirons-nous.
Je pense que cette défaite est à peu près aussi gonflée en négatif que la victoire contre Strasbourg a été gonflée en positif, dans le sens où contre Strasbourg on gagne 5 avec une réussite maximale, des frappes qui partent de nulle part et qui arrivent dans la lucarne, un arrêt à 1-0 qui est déterminant de notre côté. Je pense pas qu'on méritait de gagner 5-0 ce match, et peut-être qu'il a fait plus de mal qu'autre chose, hein, je sais pas, mais et comme ce match-là, je pense pas qu'on mérite non plus de le perdre forcément 4-0.
Néanmoins, on mérite sûrement de le perdre quand même, parce qu'avec tant d'erreurs indignes d'une défense de Ligue 1, finalement, on ne peut pas espérer grand-chose. Alors, cette défaite assez lourde à Montpellier ne remet pas pour autant en cause le début de saison plutôt bon hein, du Stade Brestois, 22 points à la trêve. C'est déjà 5 de plus que le premier barragiste même, et 10 hein, de plus que le premier relégable. Avec le nombre de points, on dira aussi que généralement on prend du plaisir à regarder notre équipe, surtout quand on va au stade, plus que quand on le regarde à la télé. Mais généralement, c'est vraiment, c'est bien ce qu'on voit, c'est bien.
Oui, c'est bien. Effectivement, on prend du plaisir. Hein. D'ailleurs, supporters brestois en particulier, même les gens un petit peu extérieurs, quand on regarde un petit peu les réactions sur les réseaux sociaux, les gens sont assez fans de ce que Daloglio essaye de mettre en place. Après, on en a parlé déjà tous les deux. Moi, je suis un petit peu moins optimiste que toi. Je trouve que là, on est sur une pente. J'espère qu'on est dans notre creux hein, de forme maintenant. Mais depuis Strasbourg, et si on compte les matchs d'avant, depuis Amiens, finalement, on n'avance plus beaucoup. Et heureusement que derrière, ça patine encore plus vite, parce que Toulouse est sur 8 défaites consécutives. Nîmes, c'est plus ou moins la même. Et quand on voit que Dijon et Metz qui s'affrontent se neutralisent, bon, pour nous, c'est plutôt bien. Je reviens sur les 22 points. Si tu multiplies par 2, ça fait 44, on est sauvé techniquement. Hein. Je pense que sur les 15 dernières années, avec 44 points, t'es sauvé 13 ou 14 fois.
Et puis je vois mal un Metz ou un Nîmes, et encore moins... Non, un Metz ou un Dijon, et encore moins un Nîmes et un Toulouse, faire une deuxième partie de saison tout feu, tout flamme. Quoi. C'est très improbable.
C'est improbable, mais on ne sait jamais. Enfin, je veux dire, on a vu un Toulouse le faire il y a 2 ou 3 ans avec Pascal Duprat. Je pense qu'il va pas, il faudra vraiment pas qu'on ralentisse la cadence et peut-être même donner un petit coup de collier, parce que si la réussite commence à nous fuir à domicile, sachant qu'on joue des gros morceaux, hein,
ça c'est vrai.
Ça peut être délicat, d'autant plus qu'on va faire face à un calendrier début janvier assez compliqué avec, au mois de janvier, hein, avec un déplacement à Amiens notamment, la réception d'Amiens. Il me semble qu'on va à Dijon assez rapidement aussi.
Donc des adversaires. Et on va jouer tous les 3 jours aussi.
Et on va jouer tous les 3 jours. Et quand on sait que tous les 3 jours, généralement, le troisième match, c'est la catastrophe, pour moi, on est très très loin d'être sauvés. Très très loin d'être sauvés. On n'est pas à l'abri d'une deuxième partie de saison très compliquée.
Néanmoins, tu diras oui si je te demande si on est sur la bonne voie.
Oui, on est sur la bonne voie, mais j'ai peur que...
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne se sauvera pas avec 22 points, donc il faudra en prendre encore.
C'est ça, je pense que pour sauver, il faudra au moins 38, 39 points. Pour
c'est être... ça, moi je dirais 38, ouais. 38, ce qui est quand même assez bas.
38, ça veut dire qu'il nous faudra encore 16 points. 16 points sur une demi-saison, normalement, tu peux t'en sortir. On a pris des points face à la côte des concurrents directs, et je pense que si on se maintient, la série, lorsqu'on gagne Dijon, Metz et Angers, aura été vraiment déterminante. Tu vois, moi, par exemple, je pense, là, je suis d'Aloglio, la Coupe de France, je fais un trait dessus tout de suite.
Même si c'est un derby ?
Moi, je m'en fous complètement. Ouais, honnêtement, c'est un derby, ok, mais je pense qu'on sera... De toute façon, c'est pas un quart de finale, c'est pas une demi-finale, c'est un 32e. Aussi bien, on bat Lorient avec l'équipe, on se récupère le PSG en tirage au sort derrière. C'est trop aléatoire. Je pense qu'il faut rester concret, pragmatique. Moi, j'envoie la grosse équipe à Lyon, en Coupe de la Ligue, parce que Lyon n'est pas au mieux. Et sur un match qui peut se finir au pénalty après 90 minutes, rien n'est perdu d'avance, franchement. Et tu mets le paquet sur le championnat. Et la Coupe de France cette année, ben, de toute façon, pour ce qu'elle nous réussit, autant le
jouer. Il y en aura une autre l'année prochaine.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et là, contrairement à l'autre.
Contrairement à l'autre, et en plus, l'autre, on est en quart de finale. Donc tu vois, tu passes Lyon avec un petit peu de chance au tirage, tu reçois Reims ou Strasbourg en demi à domicile. T'es à 2 matchs du Stade de France. Alors, c'est à la fois très très proche et très très loin. Mais je pense que c'est le chemin le plus court pour vivre et pimenter la saison. Et ça pourrait créer une dynamique positive aussi pour l'équipe, je pense. Coupe de France, à mon avis, ça va être... Bon, après, le match de reprise de Coupe de France, généralement, c'est un match d'entraînement, souvent. Enfin, d'entraînement. De remise en jambe.
Bon. Mais c'est aussi l'occasion de bien reprendre et de reprendre avec une victoire. C'est toujours plutôt c'est positif.
C'est mieux de jouer Lorient qu'un terrain boueux de N3 où tu peux te faire éliminer. Et du coup, tu te fais éliminer à Lorient, tu te dis putain, c'est con, c'était Lorient, mais au final, c'est le premier de Ligue 2 ou le deuxième de Ligue 2. Pardon, les Lensois, le deuxième de Ligue 2. Il n'y a rien d'infamant, je pense, même si ça fait chier, c'est un derby, bien sûr. Après, c'est pas gagnant non plus. On perd toujours à Lorient, on est habitué, sauf l'année dernière. C'est mon avis. Après, je peux comprendre que les gens et la Coupe de France pour eux soit plus important que la Coupe de la Ligue, hein, dans mon esprit aussi, évidemment, en règle générale. Mais il faut dire qu'on n'avait jamais été en quart de Coupe de la Ligue. Donc, je ne savais pas trop comment réagir l'autre jour. J'étais ouf.
Ni en huitième d'ailleurs. Et le premier huitième de finale et peut-être le dernier de l'histoire du club. C'est plutôt bien passé. Une très belle victoire. On n'en a pas parlé. C'était plutôt sympa avec une équipe un peu remaniée. Un nouveau système de jeu qui a plutôt bien marché. Gaëtan Charbonnier qui retrouve le chemin des filets. Et une très belle opération financière, comme on l'a mentionné sur notre compte Twitter. Ça fait un peu moins de 900 000 euros dans les caisses. C'est pas négligeable, ça peut être la différence entre un joueur qui signe et un joueur qui ne signe pas. Quand on prend par exemple.
Et mal engagé qui se fait finalement.
Oui, tout à fait. Si on prend l'exemple de Mathias Pereira, là, peut-être qu'avec 900 000 euros de plus, il aurait signé à Brest.
On ne le saura jamais, mais effectivement, pour les coups prochains, c'est très intéressant. Et la Coupe de la Ligue, on le voit, et rapporte beaucoup plus que la Coupe de France. La Coupe de France, c'est 32 000 euros, je crois, si on passe quelque chose comme ça. Bon, c'est dérisoire.
Niveau historique, c'est...
C'est mieux.
C'est mieux et c'est une toute autre compétition. Mais au niveau pécunier, c'est pas Denis Le Saint qui dira l'inverse. La Coupe de la Ligue est quand même beaucoup plus intéressante.
Et après, je sais pas, il y a des gens qui sont totalement fermés à la Coupe de la Ligue en disant c'est organisé par la Ligue, il faut boycotter. Bon, le championnat est aussi organisé par la Ligue et on le boycotte pas, donc il faut arrêter aussi le délire. Mais moi, on reviendra, je pense, sur un podcast prochain sur le match à venir à Lyon, mais vu l'état de Lyon en ce moment et certaines performances à Marseille, à Bordeaux, à Lille, on peut tout à fait accrocher un nul et essayer de les envoyer au péno, c'est pas perdu.
Bon, on a fait le tour rapidement sur les deux derniers matchs de l'année, finalement. Juste rapidement, des news, et tu voulais commencer par un Larsonneur plébiscité dans toutes les équipes types de la première partie de saison de Ligue 1.
Je ne sais pas si l'équipe a sorti la sienne pour l'heure, mais en tout cas effectivement on le voit un petit peu partout, notamment là j'ai vu, donc c'était le RMC Football Show qui proposait un sondage pour vous, qui était le meilleur gardien de cette première partie de saison, et dans les propositions vous avez Navas donc du PSG, Mandanda de l'OM, Rajkovic, je ne sais pas exactement comment on le prononce, de Reims, et Gauthier Larsonneur. Bon, évidemment, sur ce genre de vote ouvert aux supporters, c'est celui qui a la plus grosse communauté qui l'emporte. Donc là, c'est le PSG, Navas en peut-être, Mandanda en deux, mais quand même Larsonneur en trois avec 20% des voix. Et France Football a lui également édité son équipe type de la première partie de saison, et Gauthier Larsonneur est le gardien. Donc voilà, je pense que pour un club comme Brest et pour lui, un joueur formé au club, c'est important. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait, de ce que ça représente, un joueur formé au club qui est dans l'équipe type de la Ligue 1, ça, je pense, c'était jamais arrivé depuis l'ère de la, enfin depuis qu'on est revenu dans le football professionnel, dans le monde professionnel. C'est vraiment super super bien, et je pense que toi, comme Yann et moi, on en profite également pour le féliciter pour ses performances et son début de saison.
J'ajouterais aussi qu'il est dans l'équipe type de la première partie de saison d'Opta. Donc l'institut de statistiques, c'est le gardien de cette équipe de la première partie de saison.
Très bien.
Et c'est aussi le joueur le plus cher maintenant de l'effectif du Stade Brestois selon Transfermarkt, qui a actualisé donc les valeurs des joueurs de Ligue 1 et donc Brest, puisque Brest est aujourd'hui un club de Ligue 1, contrairement à d'autres. Exactement. Et notamment Lens, oui effectivement. Surtout Lens, même. Et donc, notre effectif vaut actuellement 51 600 000 euros. Donc, belle progression avec pas mal de joueurs qui ont vu leur valeur exploser. Donc, on parlait de Gauthier Larsonneur. Ça en est l'un d'eux, puisqu'il coûtait, selon ce site internet allemand, 4 millions d'euros avant et il est passé à 7 millions d'euros Ibrahima Diallo, pareil, de 3,5 millions d'euros à 7 millions d'euros. Irvine Cardona a vu sa valeur plus que doubler de 1,5 million d'euros à 3,5 millions d'euros. Pareil pour Jean-Charles Castelletto qui a vu sa valeur doubler à 1,5 million d'euros à 3 millions d'euros. Donc généralement, les valeurs ont augmenté, sauf pour Paul Lannes qui a vu sa valeur baisser de 300 000 euros de 2,5 millions d'euros à 2,2 millions d'euros. Et quelques baisses pour Gaëtan Bello, David Kiki et Ludovic Ball aussi qui se font un peu plus vieux et ou qui ne jouent pas pour... Pour notre ami, notre écureuil du Bénin préféré. Et pas grand chose pour les news, puisqu'il n'y a pas de match au niveau des jeunes ou des féminines, pas d'anciens Brestois qui ont brillé. On salue Yann, le gérant de cette chronique hebdomadaire, qui n'est pas là, mais il est dans nos cœurs, c'est le plus important. Le gros morceau de ce podcast. L'équipe de la décennie, donc on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée de vous demander votre avis aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez été pas mal à le faire justement et ça fait plaisir. Et du coup, on s'est dit que. Vas-y, ou quoi ?
Pardon. Une grosse participation, même, il y a eu pas mal d'équipes.
Ouais, c'était sympa de voir que les gens ont participé. Et on espère que vous écouterez aussi la nôtre. Donc rapidement, chacun finalement utilise les critères qu'il veut. Il n'y a pas chaque équipe finalement est valable, que ce soit les joueurs les plus talentueux passés à Brest durant les 10 dernières années, que ce soit l'amour du maillot, que ce soit la performance du joueur pendant sa tenue au Stade Brestois, peu importe finalement, hein, il n'y a pas de règles. Et donc à la base, je pensais que on allait partir de la saison 2010-2011. Jusqu'à celle actuellement, mais après avoir regardé donc vos propositions, je me suis dit que c'était quand même mieux de partir jusqu'à la première saison de la montée, donc 2009-2010. Et effectivement, ça offre un panel un peu plus large de joueurs qui pourraient rentrer dans cette équipe de la décennie. Tu as rien à rajouter avant de commencer, Fanch?
Tu veux faire comment? Tu veux faire poste par poste et on fait chacun notre équipe? Je sais pas.
Ouais, poste par poste, moi je pensais.
D'accord.
Parce que ça donne aussi la possibilité de discuter des anciens, ceux qui sont peut-être pas nommés mais qui méritent une mention. Mmh. Même si on a fait un. Alors toi t'as fait un banc, moi j'en ai pas fait.
On n'aura peut-être pas le banc. On peut peut-être le citer mais sans.
Enfin, moi j'ai mis poste par poste et j'ai mis des joueurs entre parenthèses donc voilà c'est ça donc bon, mon banc il fait 23 joueurs mais c'est pas très grave. C'est un banc gigantesque qu'on a. Alors je vais te laisser démarrer avec ton gardien la Fanche.
Alors moi j'ai hésité longtemps mais je me suis dit que c'était l'équipe de la décennie et en termes de matchs joués sur cette décennie et en termes d'avenir etc. J'ai hésité longtemps évidemment entre deux qui me paraissent évident, hein, à savoir Steve Elana et Gauthier Larsonneur. Après, pour moi, Steve Elana a surtout été un gardien très important sur la période 2006-2011. Il part mi-2012. Donc, je l'ai mis sur mon banc, hein, malgré ses 246 matchs pour le club. Et j'ai mis Gauthier Larsonneur, parce que justement, pour tous les arguments que j'ai donnés tout à l'heure, 93 matchs au club déjà, il n'a que 22 ans, formé au club. Je me reconnais plus dans Luc que dans Steve Elana par exemple, hein, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, plein de promesses et je trouve qu'il dégage vraiment un truc et qu'il représente l'âme du club comme pouvait le représenter Steve Elana à son époque également, hein, mais il représente un truc, il est proche des supporters, enfin voilà, les deux c'était kiff. Je peux très bien entendre que quelqu'un mette Steve Elana, il y a peut-être plus cohérent d'ailleurs, hein, mais voilà, moi je me reconnais, c'est on va dire la confrat éternalité, je ne sais pas si le terme est totalement exact, conquêtoise, qui me fait mettre Gauthier Larsonneur.
Ouais, c'est ça, il n'y a vraiment pas de mauvais choix entre lui et Steve Elana. Moi, j'aime bien aussi Gauthier Larsonneur. Il y a une montée chacun. Elana a sûrement le passé qui parle pour lui, avec deux maintiens et des performances assez prépondérantes. Enfin, il était peut-être pas meilleur gardien de Ligue 1 à son époque, mais il était au moins top 3 dans...
Alors il est parti à Lille, bon c'est pas pour rien non plus, Lille qui venait d'être champion de France, qui vient de chercher, bon après ça s'est pas très bien passé pour lui là-bas, l'adaptation, c'est pour ça aussi que Gauthier Larsonneur, je pense qu'il faut pas qu'il parte trop vite de Brest, parce qu'on sait, enfin il sait ce qu'il a ici, et il sait pas forcément ce qu'il va trouver ailleurs. Yann, il nous avait mis quoi lui?
Il nous avait mis Steve Elana, donc comme je le dis, pas vraiment de mauvais choix entre les deux, Il argumentait avec ses deux maintiens en Ligue 1, où les deux fois justement il était pour beaucoup dans ses maintiens assez justes au niveau du classement. Et il ajoutait que c'était une grosse satisfaction au niveau humain, ce que je peux comprendre, hein, puisque il est arrivé donc de Caen, hein, il me semble. Et finalement, il est presque devenu Brestois au fil des années et il se retrouve avec une boutique à Brest.
Il venait de Caen, il est arrivé en 2005. C'est pour ça, il est arrivé en 2005, parti en juillet 2012. C'est pour ça, il a fait un an et demi dans cette décennie. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu hésité à le mettre dedans. Sans quoi, il aurait été dedans, je pense.
Oui, si on fait l'équipe des 15 dernières années, c'est lui, indiscutablement, je pense.
C'est ça.
Mais là, bon, pour nous deux, ce sera Gauthier Larsonneur. Après, il y a beaucoup qui ont nommé Lana, comme je l'ai dit et je le répète, il n'y a vraiment pas de mauvais choix. C'est peut-être l'un des choix les plus durs, d'ailleurs, de cette compo.
Oui, il y en a d'autres qui sont plus évidents, effectivement.
Par exemple, l'arrière-droit, peut-être.
Alors, l'arrière-droit, bah moi, j'ai mis Gaëtan Bello. Voilà, je trouve que tu en avais parlé dans un podcast au début d'année. Tu disais que bah, Gaëtan Bello, un petit peu même titre que Bruno Grougy, c'était des gars qui auraient marqué leur passage à Brest, et je suis bien d'accord avec toi. En termes de matchs, c'est quand même 157 matchs joués, hein, pour Bello. Et en plus, il arrive dans les moments un peu les plus durs de la Ligue 2. Et donc il a toujours montré un état d'esprit très positif, il est devenu capitaine de l'équipe de la montée, il s'est toujours accroché, il a toujours un super état d'esprit, et voilà, je ne vois pas qui d'autre pourrait prendre la place de défenseur droit.
Alors dans les petites parenthèses, moi j'avais mis Ousmane Koulibaly, qui avait bien progressé au fil des années, mais voilà, ça reste peut-être moins clinquant que Gaëtan Bello au niveau de des souvenirs laissés à Brest, et Omar Daf évidemment, qui était peut-être, beaucoup l'ont mis arrière-gauche, donc je sais pas si ce sera pareil pour toi. Pour moi, ça reste un arrière-droit, j'ai mis quelqu'un d'autre arrière-gauche, voilà. Et Paul Bess aussi, qui aurait pu faire partie de...
En fait, il souffre d'un truc, Paul Bey, c'est le fait qu'il, déjà, d'une part, il ne soit pas resté très longtemps, et d'autre part, qu'il était baladé un petit peu de droite à gauche, et du coup, on ne sait pas trop où le fixer. Je pense que s'il était resté plus longtemps, c'est typiquement le genre de joueur que j'aurais mis dans mon équipe type de la décennie. Mais moi, je ne l'ai pas mis cette fois-ci. Je l'ai mis sur mon banc, Paul Bess.
Quelques blessures aussi du côté de Paul Bess, qui n'a pas eu la carrière qu'on pouvait espérer de lui. Pour revenir sur Gaëtan Bello, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà, c'est un vrai luxe de ne pas se soucier des performances d'un latéral sur plusieurs saisons, surtout en Ligue 2. Et on rajoutera aussi sa complémentarité avec Julien Fossurier au fil des années. C'était l'un des plus beaux côtés droits de Ligue 2. Et voilà, les débordements de Gaëtan Bello dans le dos de Fossurier, ça reste.
Et je pense également, je me permets de rajouter que Gaëtan Bello a marqué le plus beau but de la décennie aussi. Même si c'est lui, il fait que terminer. Mais l'action de Charbonnier contre Lorient, donc il faut pas oublier que c'est lui qui marque.
C'est vrai. On a tendance à l'oublier. J'ai tendance à l'oublier, peut-être pas vous, mais personnellement, c'est vrai que évidemment, on pense surtout au geste de Charbonnier, mais il faut marquer le but après.
Finalement, c'est un but d'un Gaëtan.
C'est vrai. Et très content que finalement que Gaëtan Bello goûte à la Ligue 1, même si voilà, il n'est pas titulaire indiscutable parce qu'il tombe sur un Julien Fossurier retrouvé, surprenant, peu importe l'adjectif amélioratif que vous voulez utiliser, mais voilà. Très content que Gaëtan Bello puisse peut-être pas terminer sa carrière. Il est en fin de contrat, donc il partira sûrement l'été prochain. Et j'espère qu'il aura un hommage à la hauteur de ce qu'il a apporté au club.
Ce serait mérité en tout cas.
Absolument.
Yann Ami Bello aussi.
Yann Ami Bello, pour des raisons assez similaires à ce qu'on a pu dire depuis tout à l'heure. Alors, on va passer à la défense centrale. Dire tes deux joueurs.
Mes deux joueurs, d'accord. Donc, c'est deux joueurs qui n'ont pas forcément joué beaucoup de matchs à Brest, mais donc deux joueurs, je vais justifier pour chacun d'entre eux. D'abord, Ismaël Traoré. Vraiment, j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur, un vrai véritable rock. En plus, on l'a mis à droite au début, puis après, il s'est repositionné dans l'axe. Je pense que du niveau d'état d'esprit, il n'a jamais fait pareil de lui. Et puis, on voit que son évolution à Angers confirme que nous avions là vraiment un très bon joueur. Donc, Traoré est accompagné. Alors, c'est peut-être un petit peu plus étonnant. Par Jonathan Zébina. Alors pourquoi j'ai mis Jonathan Zébina qui n'a joué que 29 matchs? Tout simplement parce que je pense que c'est le joueur avec le plus de talent que j'ai vu à Brest en défense. J'ai un petit bémol juste sur son départ, parce que je pense qu'il n'est pas parti forcément de manière très très clean. Mais voilà, c'était un monstre d'anticipation, de placement. Voilà, et le gars venait, il avait joué à Brescia, je crois, mais il venait de la Juve et de la Roma. Bon, c'était le niveau au-dessus. Peut-être que j'étais plus jeune et que je voyais ça différemment aussi. Mais moi, il m'a laissé quelque chose. C'est pour ça que j'ai choisi donc cette paire Zébina Traoré.
Ça coïncide d'ailleurs avec d'excellentes performances de Joël Martial à ses côtés.
Oui, j'aurais pu mettre. J'aimais pas ce gars vraiment en dehors du terrain, donc c'est pour ça que pour moi il n'avait pas sa place.
Non, il a clairement pas sa place dans cette équipe, mais ça montre aussi son apport qui a peut-être ricoché par rapport à d'autres sur d'autres joueurs. Et voilà, ça montre aussi l'importance peut-être qu'il avait dans le vestiaire et l'expérience qu'il a pu apporter à certains plus jeunes joueurs.
Il avait d'ailleurs parlé de Joan Martial en très bien, mais en disant que bah il était un peu con, quoi. Donc c'est pour ça que.
Et je crois que l'avenir lui a donné raison.
Oui.
Malheureusement. Alors de mon côté, Ismaël Traoré également, un vrai leader sur le terrain aussi. Il y avait un vrai charisme autour de lui. Pareil, il était dans une comme Gaëtan Bello un peu, il était dans une période où c'était pas vraiment idéal de jouer au Stade Brestois. Et lui a su élever son niveau de jeu pour au final faire une très belle carrière en Ligue 1 finalement.
Ah oui, là, très belle carrière. Il est capitaine à Angers. Et d'ailleurs, Yann, lui aussi, a mis Traoré et il nous disait qu'il s'attendait. Il est un petit peu déçu finalement de son évolution de carrière en pensant qu'il aurait pu aller plus haut que ça.
Ouais, s'il avait peut-être eu 2 ou 3 ans de moins
oui.
Quand il a explosé, il aurait peut-être eu un peu plus de temps pour faire son trou, mais il n'y a rien à reprocher à sa carrière. Hein. Alors finalement, le deuxième défenseur central, le poste est assez homogène finalement. C'est vraiment un poste où on n'a vraiment pas eu de problème à trouver des très bons joueurs au fil des années, que ce soit en début de décennie avec donc Kantari et Bouapanga. Ensuite, on a eu des John Tiletti qui, par la suite, alors peut-être pas à Brest, mais par la suite, ont fait une carrière plus que bonne, puisque John Tiletti a joué à la Lazio, il me semble. C'est quand même pas mal du tout. Un Simon Fallet qui est aujourd'hui à l'Eintracht Francfort. Même un Zakaria Diallo hein, qui aurait. Lui, c'est un peu pareil que Traoré. Qui aurait pu faire une meilleure carrière s'il avait été un peu plus. Explosé peut-être un peu plus jeune. Mais il avait tout, Zakaria Diallo. Il est resté qu'un an, mais c'était vraiment une année assez impressionnante. Pareil, son départ.
En fait, il est resté 1 an et demi, mais il est resté 6 mois sans jouer.
C'est ça. Son départ, vraiment pas classe, c'est dommage. Et par la suite, évidemment, des Anthony Weber, évidemment. Mais j'ai choisi Jean-Charles Castelletto, parce que, pas par défaut, mais c'était vraiment homogène et je savais vraiment pas lequel choisir. Alors, c'est pas son match contre Montpellier qui l'a vraiment aidé à être dans cette équipe, mais c'est un joueur assez complet. Et voilà, pareil, montée, performance assez régulière depuis 2 ans et demi. Mais comme je l'ai dit, voilà, des Kantari, des Bouapanga. Bouapanga était pas mal cité parmi vos équipes à vous, les auditeurs.
Yann a choisi Weber, lui.
Oui, qui lui a fait une très belle impression. Et c'est pareil, ses qualités humaines aussi ont fait la différence pour notre ami absent.
Qui a l'air de le regretter un petit peu, même s'il... Il doute de son adaptation à la Ligue 1. Effectivement, on aurait pu l'imaginer en tant que quatrième défenseur. Oui, effectivement, au niveau des joueurs qui ont été très cités également à ce poste, on a Bouapanga qui est revenu très souvent, le regretté, Moïse Bouapanga d'ailleurs.
Oui.
En revanche, Kantari était très très peu cité, c'est très bien.
Et je pense qu'au niveau du talent, Simon Fallet était au-dessus. Il est resté que 2 saisons, si je dis pas de bêtises.
Il est un petit peu en difficulté là, en ce moment à Francfort.
Oui, il joue pas beaucoup, pour ne pas dire pas du tout.
Peut-être le revenir.
Pourquoi pas finalement, même si on est déjà pas mal. Alors un poste un peu plus difficile peut-être à choisir. Le poste d'arrière gauche. On parlait tout à l'heure de la régularité de Gaëtan Bello, qui était un luxe à un poste de latéral. Là, ça. Pas été vraiment la même mayonnaise.
Bah, le truc c'est que du coup j'ai choisi un joueur qui n'est pas latéral gauche. J'ai pris Julien Fossurier en fait. Il peut de temps en temps jouer à ce poste, mais pour le récompenser, je voyais pas une équipe de la décennie sans Fossurier. Donc on voit à quel point il est efficace en Ligue 1 maintenant, à quel point il a été important en Ligue 2, même si l'année de la montée, c'est finalement peut-être sa plus mauvaise année. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà, Fossurier largement mérite sa place. Donc je l'ai mis à gauche. On aurait pu mettre Daf également, hein, mais Omar Daf a fait moins de matchs. 80 matchs pour Daf, Fossurier est déjà 120. Donc Julien Fossurier.
Voilà, si vous avez mis un non arrière gauche à ce poste de la arrière gauche, voilà, comme je l'ai dit en introduction, chacun utilise les critères qu'il veut. Hein, s'il veut mettre Gaëtan Charbonnier arrière gauche, il n'y a pas de souci, même si on doute un peu de son efficacité à ce poste-là. Mais personnellement, moi j'ai mis Quentin Bernard et dans mes commentaires j'ai mis par défaut point. Voilà. C'était soit donc Yann a mis Wilfried Mwembe, qui était vraiment au-dessus niveau sportif. Mais qui a plus laissé de souvenirs au niveau en dehors du terrain plutôt par ses comment on pourrait dire ça de façon polie, ses frasques, on peut dire ses frasques hors du terrain, mais c'était vraiment un joueur au-dessus du lot et qui aurait sûrement pu et dû faire une carrière en Ligue 1, mais qui était visiblement pas très intelligent. Ça aurait pu aussi être notre coordinateur sportif actuel, Grégory Lorenzi.
Ouais, ça aurait pu, on peut comprendre qu'il soit dans l'équipe.
Il a été cité quelques fois, il me semble.
Oui.
Alors, son présent de coordinateur sportif ne peut pas lui apporter des points supplémentaires pour sa candidature pour cette équipe de la décennie. Mais il aurait pu, avec notamment quelques buts historiques, et se retourner acrobatique notamment. Le but à Lyon également, ça a été un bon servant du club et ça continue de l'être. Mais voilà Quentin Bernard parce qu'il est monté avec Brest, parce que, alors sans être exceptionnel, il a été plutôt, c'était quelqu'un sur lequel on pouvait compter, quoi, mais pas plus. Jamais très mauvais, jamais très bon non plus. Voilà, c'était un bon joueur. Et il a sûrement apporté aussi dans le vestiaire la saison de la montée. Et ça, c'est peut-être aussi à mettre à son actif.
Oui.
Alors, je sais pas quel système tu as utilisé, toi, exactement.
Un 4-4-2.
Ah bah, pareil. Donc, on va pouvoir passer aux milieux centraux, avec un évident et un peut-être plus discutable.
Ouais, un évident, tu veux parler de Bruno Grougy, j'imagine.
Ah bah, je pense que même si on faisait l'équipe de l'histoire du Stade Brestois, il serait dedans. Oui. Donc, la décennie, ça ne pose aucune question.
Oui, voilà, donc on va pas. Moi, j'ai juste justifié en mettant la légende, hein, 307 matchs, 53 buts, bon, voilà. Bruno Grougy. Et en fait, en milieu récupérateur avec lui dans l'axe, j'avais mis Oscar Evolo. Vraiment symbole de la montée en 2009, je trouve. Et un homme un peu hors du commun par ses activités également extrasportives de pasteur, etc. J'ai beaucoup aimé ce joueur. En plus, sur le terrain, il était loin d'être mauvais. Hein. Et il a apporté l'expérience qui nous manquait, je pense, dans les années, entre les années 2004 et 2010, qui nous faisait défaut parce qu'on était toujours en difficulté. Et lui est arrivé avec Omar Daf, tous les deux ont pris l'équipe sous leurs bras et ont été extrêmement importants dans la montée en 2009-2010. Donc pour moi, Oscar Evolo, Bruno Grougy, c'est mon tandem du milieu de terrain.
On ne gagnera pas trop de duels aériens avec ces deux joueurs, hein, par contre.
Oh, ah oui, non.
À côté de Bruno Grougy, on peut mettre 4 ou 5 joueurs, finalement, hein, si je regarde la... que Yann a écrit, il a choisi Joan Ramaré, qui était effectivement un joueur très régulier dans des années où c'était vraiment pas la norme.
Il est toujours au club d'ailleurs.
Donc, oui, il est revenu donc cet été en tant qu'adjoint de Nicolas Marié à des U17 nationaux. Donc ça montre aussi qu'il a gardé un bon souvenir de la région. Et on a plutôt gardé un bon souvenir de lui aussi, donc c'est plutôt réciproque. Yann jouait en 4-3-3, donc lui avait rajouté Ibrahima Diallo. Il dit que ça peut paraître prématuré, mais qu'il a jamais eu souvenir d'avoir vu un meilleur milieu de terrain en termes de talent à Brest. Et c'est vrai que Ibrahima Diallo, moi je l'ai mis dans mes mentions honorables. Pareil pour Belkebla, pour Ibrahima Sissoko et pour John Jairo Koulma, qui a été cité une ou deux fois, il me semble. C'est vrai que Koulma, s'il n'avait pas été blessé, il y avait quelque chose quand même chez ce joueur.
Il avait quelque chose, il avait vraiment, en plus il avait une gueule, il avait une qualité, une hargne, mais c'est un petit peu son départ pareil qui me laisse, bon, Ça s'est fait de manière un peu étrange. Et pour moi, il a été trop peu présent, comme Diallo aujourd'hui encore, trop peu présent pour mériter sa place dans une équipe de la décennie. Tu me diras, j'ai bien misé Bina. Mais il n'avait pas ce talent vraiment énorme qui fait qu'il mériterait d'y être. Je comprends qu'on puisse le. Moi, je l'aimais bien ce joueur, hein, mais voilà, je pense que Eolo et Grugy passaient avant.
Il résumait assez bien ce que les Brestois aiment chez un joueur finalement. C'est
Ouais,
pour
c'est
ça
ça.
que je pense qu'il a laissé une très bonne image.
Il a
Et
pas.
moi, c'est un peu la même chose pour le deuxième milieu central, puisque j'ai mis Batocchio.
Ah oui, bah moi je l'ai mis sur un côté, Tokyo, donc.
Je le répète, il n'y a pas de règles. Mais voilà, Batocchio, c'est vraiment un joueur qui résume à lui seul ce qu'on peut aimer chez un joueur. Il a à la fois la grinta et les qualités techniques pour marquer des buts exceptionnels, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, hein, sans sa performance contre Strasbourg. Visiblement, il aime la région, il a pu revenir après avoir quitté le club une première fois. Voilà, je le dis régulièrement, mais tout le monde aime Batocchio, et moi le premier.
T'as toujours été un grand fan de Batocchio.
Ouais, parce qu'en plus, c'est un joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir à Brest, c'était un pari de Jean Costa, on remercie Jean Costa d'ailleurs, on ne le fait pas assez pour avoir fait venir Batocchio, mais voilà, c'est un type de joueur qu'on n'a pas l'habitude de voir, encore moins en Ligue 2. C'est peut-être aussi pour ça qu'il se détache un peu plus des autres par rapport à des Joan Ramaré, par exemple, il y a plusieurs Joan Ramaré en Ligue 2, quoi.
Batocchio, il a ça pour lui, c'est que c'est un joueur qui est très agréable à voir finalement. C'est un petit peu ce jeu pour ce genre de joueur. Je vais pas le comparer à des grandes vedettes, mais c'est pour ce genre de joueur technique, un petit peu habile, balle au pied, que les gens viennent aussi au stade, quoi. C'est lui qui nous met des beaux buts. Depuis qu'il est à Brest, il a mis, je sais pas, j'ai pas marqué son nombre de buts. Non, pourquoi j'ai pas fait ça bien? Il a fait 101 matchs déjà quand même, hein. Il a fait deux mandats au club, hein, parce qu'il était arrivé, puis reparti, puis revenu. Et sur tous les buts qu'il a marqués à Brest, il y en a quand même un grand pourcentage de buts qui sont très beaux. Et
Ouais.
je trouve que voilà, il dégage quelque chose, ce Christian.
Côté droit, j'imagine que. Moi, j'ai pas mis celui que tu vas mettre, je pense. Mais j'imagine que c'est l'homme en slip.
Attends, non, j'ai pas mis Romain Poyer.
Ah!
Non, je l'ai mis sur mon banc parce que j'avais mis Benoît Le Saulmier, en fait.
Ah,
Mais.
très bien.
Ouais, j'ai mis Le Saulmier parce que je trouve meilleur footballeur que Romain Poyer. Et même réflexion pour Poyer que pour Elana, finalement. En fait, c'est des joueurs que j'ai beaucoup aimés et qui se sont révélés et qui ont vraiment connu leur meilleure période à Brest dans cette décennie-là. Hein. Mais il fallait faire un choix, donc Poyer, je l'ai mis sur le banc. Et lui, c'est plus un choix du cœur parce que je pense qu'il restera dans mes joueurs préférés, si tu veux, de la décennie. Mais. Bah, j'ai pas fait l'équipe de la fidélité et du cœur, j'ai essayé de faire une équipe qui, sur le terrain, pouvait être la plus performante. Et Benoît Le Saulmier, avec ses 156 matchs joués, ses 13 buts marqués pour Brest, et son habileté à centrer, je me souviendrai toujours de son crochet, là, qui faisait toujours le même, et ça passait souvent. Son binôme avec Bruno Grugy aussi m'a beaucoup marqué. Hein, à E2, c'est plus de 450 matchs pour Brest. Voilà, c'est lui que j'ai choisi, avec Batocchio d'un côté et Le Saulmier de l'autre.
Très bien. Moi, du coup, à droite, j'ai mis Julien Fossurier.
Ah, tu l'as fait jouer plus haut, d'accord.
Oui, bah, c'est le poste qu'il a le plus.
Oui, t'as raison.
Auquel il a le plus évolué à Brest. Mais un peu comme ton argument quand tu l'avais mis arrière gauche, je voyais pas une équipe type de la décennie sans Julien Fossurier et tout ce qu'il a pu apporter.
Oui, la fosse.
Ouais, et encore plus cette année, quoi.
Incroyable.
Capital sympathie a encore plus augmenté depuis le début de saison.
Encore un conquétois, c'est incroyable ça.
qu'est-ce qu'on peut rajouter qu'on n'a pas dit sur Fossurier? Enfin, il respire en plus la
l'image de Brest, en fait, c'est le gars qui va pas se la raconter, parce qu'on est un club quand même plutôt populaire dans le sens noble du terme, hein, mais qui veut pas se prendre pour qui il n'est pas. Il y aura pas de strass ni paillettes, et avec Fossurier, on sera pas déçu, en fait. L'année dernière, il était moins bon, il a pas fait de vagues. Cette année, il est vraiment vraiment, pour son âge, pour le fait de jouer à ce poste-là, il est vraiment excellent. Pour moi, c'est un des 2-3 meilleurs joueurs de la phase aller. C'est top. Vraiment, je suis bien content que tu l'aies mis dans ton équipe aussi, dans ton équipe type.
Finalement, si on doit chercher quelque chose de négatif à dire sur Fossurier, il faut chercher longtemps, quoi.
Oui, bah, c'est un homme. C'est peut-être ça le côté un peu. Je vérifie si Yann l'a cité. Non, pas de Fossurier qui. Il l'a mis sur son banc. Donc voilà.
Lui avait mis Romain Poyet, il me semble.
Il avait mis son milieu à Yann et composé de Diallo, Grougy, Ramaré et Batocchio.
Ah oui, il avait mis, il jouait en losange. Donc voilà, on connaît Yann et son côté hipster. Hein.
Oui.
Il devait faire son intéressant, évidemment.
Ah, bien sûr.
Et pas faire comme les autres. Mais oui, il avait rajouté Batocchio. Voilà, Julien Fossoyer, pour moi, côté droit, c'est pas indiscutable parce que beaucoup ont mis Poyet et il n'y a vraiment pas de mauvais choix là-dessus non plus. Mais enfin, c'est la fosse, quoi.
C'est ça.
C'est la fosse. Et entre parenthèses, donc, outre Romain Poyet, j'avais mis Steven Joseph Monrose aussi.
Ah oui, d'accord.
Qui a laissé un plutôt bon souvenir aussi en tant que joker. Jamais triché.
J'avais mis Johan Cour.
Ben, j'ai mis à gauche, moi, entre parenthèses. Et sinon, j'avais mis Autrette, quand même, il faut le mentionner, même si je ne suis pas son plus grand fan. Il y a quand même quelques bons trucs qu'il a fait. Et Irvine Cardona. Il n'est pas là depuis longtemps, mais enfin, je pense qu'il sera, s'il reste quelques années, il sera sûrement dans l'équipe de la décennie des années 2010, ou 2020 plutôt.
Pour moi, c'est trop tôt pour Cardona, je ne le mets pas. Autrette, je ne le mets pas non plus parce qu'il a fait beaucoup parler de lui dans la décennie. Quoique, il pourrait parce qu'il était là au début et à la fin aussi, donc il a apporté. Comme toi, hein, je suis pas un grand fan, mais il faut savoir reconnaître effectivement qu'il a quand même apporté au club par des buts, notamment la saison dernière où il est quand même très bon. Enfin, très bon, il est très décisif.
C'est ça.
Il mérite sa place dans le groupe de la décennie. Peut-être pas titulaire dans mon équipe, mais il mérite sa place dans le groupe d'être cité.
Et juste, je vais enchaîner directement personnellement par mon côté gauche puisque c'est Benoît Le Soimier. J'ai vraiment rien à rajouter par rapport à ton plaidoyer et on espère qu'il passe une bonne retraite avec ses chevaux.
Oui.
Du coup, toi, tu avais mis à Baba Tokyo, justement.
C'est ça.
Donc, pas rien non plus à rajouter, j'imagine.
Non.
Et pareil, on avait tous mis Johan Cour en mention parce que. C'est un peu le même, peut-être un plus talentueux que Le Soimier, mais c'est un peu le même style de caractère. Des mecs qui lâchent rien et qui. Ouais, les gens se retrouvent dans ces joueurs-là. Donc on va pouvoir passer directement aux deux attaquants.
Les deux attaquants, donc je te donne mes deux attaquants si tu veux. Alors moi j'ai choisi deux joueurs qui ont un caractère plutôt très bien trempé.
Je crois qu'on a les mêmes.
D'accord, bon, bah, d'abord Gaëtan Charbonnier, je pense totalement indiscutable, même si c'est finalement une saison énorme. Il a quand même joué 88 matchs et marqué 43 buts pour Brest, ce qui est beaucoup.
Quelle saison ?
27 buts. Hein. Il fait remonter pas l'équipe à lui tout seul, parce que c'était un groupe et qu'il y avait beaucoup de bons joueurs, mais quand même. Donc Charbonnier, dans l'équipe type de la décennie, indiscutablement. Et deuxièmement, Neil Maupay, parce que je pense que c'est peut-être le plus talentueux que j'ai vu à Brest devant. 32 matchs, 13 buts. Vraiment, c'était très jeune quand il était à Brest, il n'avait pas encore 20 ans. C'était vraiment quelque chose de remarquable ce qu'il a pu faire, même si ça s'est mal fini, hein, et on n'a jamais trop su pourquoi. Mais voilà, Neil Maupay, indiscutablement pour moi devant.
Rien à rajouter sur Charbonnier, hein, t'as tout dit. Même si t'as pas dit grand chose, finalement, t'as tout dit.
Ouais, c'est ça,
et c'est aussi ses qualités footballistiques, quoi, c'est un artiste.
C'est ça.
Et on a vraiment de la chance pour moi de l'avoir à Brest, de pouvoir le voir jouer. Au moins toutes les deux semaines au stade, même si c'est plus dur en ce moment. Mais...
Et c'est bien d'avoir été le chercher, d'avoir fait confiance lorsqu'il était blessé. Je pense qu'il a aussi rendu au club ce que le club lui avait donné. Et par ceci, et le fait qu'il ait prolongé l'année dernière alors qu'on était hybridé, on n'était pas encore sûr de monter en Ligue 1, il prolonge. Voilà, il est quand même, je pense, attaché au club. Et on a bien vu lorsqu'il a marqué contre Bordeaux qu'il a remercié le public tout entier parce qu'il avait reçu beaucoup de soutien. D'ailleurs, c'était bien. Voilà, Charbonnier aura marqué, je pense même, tu disais Grougy sera dans l'équipe type de l'histoire du club, bah Charbonnier sera peut-être pas très loin, peut-être à un degré moins.
Ouais, il sera dans les livres de records.
Ouais, c'est... Ouais. Dans les livres de records d'un club, tu mérites d'être dans l'équipe type de la décennie dans laquelle tu as joué.
Tout à fait. Il y a une sorte de reconnaissance mutuelle entre les gens et le joueur, et c'est vraiment agréable. Je pense que Gaëtan Charbonnier se sent bien aussi dans la région. Donc... C'est un tout, quoi. C'est pas uniquement non plus ce qu'il propose sur le terrain. Voilà, donc Neil Maupay, je le disais il y a quelques semaines sur le réseau social. Rarement un joueur m'avait fait une telle impression en une saison à Brest. Pour moi, il résumait tout ce que j'aime chez un joueur. Il avait aussi un peu la tête chaude. En plus, vous rendez compte, il avait provoqué le parquage lensois quand il avait marqué contre Lens. C'était vraiment. que dire de négatif sur Neil Maupay? Voilà, c'est dommage qu'il a été un peu mal géré sur la fin.
C'est ça. Le seul regret aussi, c'est finalement, c'est de ne pas l'avoir fait signer en définitivement, quoi. C'est un petit peu dommage de ne pas avoir eu cette chance de l'avoir sur une, deux, trois saisons. Peut-être qu'on aurait fait une attaque Charbonnier-Maupay. J'aurais vraiment voulu le voir ça, en vrai.
C'est vrai que ça, c'est parfaitement complémentaire en plus, donc on aurait pu voir de belles choses à Francis Lebré. Alors, ça m'a brisé le cœur, mais je n'ai pas mis Alexandre Alphonse.
Contrairement
à Yann, oui, c'est absolument. Difficile de trouver pourtant, je pense, plus fan d'Alexandre Alphonse que moi. Pareil que Gaëtan Charbonnier, un peu, c'est vraiment un artiste. J'ai vraiment adoré à la première touche de balle, quoi. D'ailleurs, il avait joué en Ligue des Champions, hein, donc il avait un CV assez important. Mal utilisé sûrement, parce que c'est clairement pas un joueur qui va jouer seul en pointe face à deux colosses.
Il aurait été peut-être plus complémentaire avec Charbonnier, mais c'est deux manières de ballon quand même, mais avec un Charbonnier à côté de lui, peut-être qu'il aurait été... ou un Maupay.
Voilà, ça... Que d'imagination, que de bonnes oui. Pensées dans ma tête. Mais oui, Yann l'avait mis, je vais dire ce qu'il avait écrit, qu'on allait l'insulter de ne pas avoir mis Maupay ou Ben Bassat. C'est vrai que Ben Bassat aurait pu finalement être dans cette équipe, là.
Moi, j'ai pas mis Alphonse sur mon banc, mais Ben Bassat était sur mon banc.
Ouais. On va venir à ton banc juste dans quelques secondes, d'ailleurs. Toujours grandiose quand il voulait. Il n'a malheureusement pas toujours voulu ou pu, puisque c'est vrai qu'il était pas mal blessé. Un vrai sentiment de gâchis, malgré deux saisons de grande qualité en Ligue 2. Sûr que s'il avait été à 100% en Ligue 1, ça aurait été une autre histoire.
Je regarde les équipes des auditeurs, il y a quand même pas mal de gens qui mettent Maupay. Hein. Je vois Maupay, Charbonnier devant tout seul, mais avec un Maupay sur le banc. Enfin voilà, il a fait peu de matchs, mais il est présent quand même dans le cœur des gens.
Et c'est bien, les gens connaissent le football, c'est bien. Et juste un petit dernier que j'avais mis entre parenthèses, c'est Edouard Butin.
Ah oui, c'est vrai qu'on était fan de Zinedine.
Ah oui, Zinedine, c'était... Et puis, c'était quand même l'un des premiers chants personnalisés, je dirais, de la route de Quimper.
Oui.
Avec un excellent chant à sa gloire. Et vraiment un chic type, et on est content qu'il ait retrouvé un club, même si le club n'est pas dans la meilleure situation actuellement. On espère que, justement, Edouard ou Zinedine
pourra
aider ce club à se maintenir. Alors, à ton banc, peut-être, du coup, moi, j'ai pas fait de banc, mais j'en ai rajouté quelques-uns au fil des postes.
J'avais fait juste un banc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs, parce que sur un match, c'est 7 joueurs. Donc voilà. J'avais mis Steve Elana dans les buts, Omar Daff, Paul Bey, Simon Fallette, Johan Cour, Aris Belkebla et Eden Ben Bassat.
On aurait pu faire une équipe flop aussi.
Oui,
peut-être. Mais on se rend compte qu'on a quand même eu des bons joueurs à Brest. On a eu une décennie si mauvaise.
L'équipe flop aurait été plus facile à faire, je pense. Mais
ou plus dur peut-être, tellement il y en a eu aussi.
Ah bah une attaque Melvin Plagé, Kevin Koubemba.
Et dire que c'était la même saison.
Bah oui, c'est ça le problème. Tu comprends pourquoi on a fait n'importe quoi.
Non mais en gros, il y a eu 5 bonnes saisons et 5 mauvaises. Donc
Parce que de toute façon, que les joueurs cités aussi bien par toi, par Yann que par moi, ainsi que par la majorité des auditeurs, c'est uniquement des joueurs entre 2010 et 2012 et 2017 et 2020. Il y a personne entre 2013 et 2000. Voilà, on voit pas d'Alexis Thébault, on voit pas de Manuel Pérez, on voit pas.
Il y a Johan Ramaré par contre.
Éric Thiéby. Ouais, mais Johan Ramaré, je pense que c'est surtout sa qualité humaine qui ressort. Bon joueur, hein, mais aussi humainement. Voilà, c'est très peu d'Éric Thiéby, de Melvin Plagé, de.
Et je rajoute Ismaël Traoré aussi, qui était dans ces années-là.
C'est pas faux. D'ailleurs, il est dans mon équipe, c'est le seul.
Et qui, on voyait bien qu'il était largement au-dessus des autres. C'est pour ça finalement qu'il est dans l'équipe.
Oui, et qu'il est parti aussi.
C'est vrai. Gratuitement, malheureusement.
C'est à l'époque où il y a une époque où on vendait personne finalement. C'était départ libre.
Oui, mais maintenant c'est fini avec Denis.
Et Greg.
Et pour le meilleur d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Évidemment, on ne se plaint pas. Peut-être un entraîneur.
Oui, je pense que Jean-Marc Furlan est indiscutablement l'entraîneur de la décennie. C'est lui qui a fait remonter l'équipe, c'est lui qui a apporté. Je pense que, voilà, au-delà des divergences que je pouvais avoir avec lui sur certains points, il a quand même restructuré le club, il a apporté du professionnalisme et il a permis au club de retrouver la Ligue 1. Donc on lui doit énormément, je pense. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Olivier Dalloglio pourrait être un concurrent dans les années à venir, mais à cette photo.
Et ce sera l'entraîneur de la prochaine décennie.
Peut-être, oui.
On l'espère, alors, en tout cas.
C'est pas lui, c'est
comment ça démarre.
C'est pas lui, c'est peut-être bon signe aussi de Canavaro encore un meilleur entraîneur. Mais voilà, Furlan, je pense que tu es OK avec moi.
Oui, je suis d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs le consensus général des auditeurs également.
Alors, il y a un joueur qui n'a pas été cité par nous et qui a été beaucoup cité par les auditeurs, c'est Mario Liška aussi.
Ah oui, c'est vrai. J'aurais dû le rajouter totalement.
Que je voulais citer également.
Tu fais bien.
Également, bon joueur de foot, mais également un homme fort, fort sympathique. Je pense qu'il faisait partie de ces joueurs avec la tête bien faite qui étaient à Brest.
Et Bruno... Quand on parle 5 ou 6 langues.
Oui. Oui, bien sûr.
Il y a un signe d'intelligence qui ne trompe pas.
Bruno Rougier, c'est lui le joueur qui a été cité le plus hein, dans toutes les équipes, avec Steve Elana. Bruno Rougier, Steve Elana. Et après, il y a égalité, on a du Brouwa Panga, du Poyer, du Ebolo, du Belkebla, du Bello. Donc, finalement, et Charbonnier, 12 fois par rapport à ce qui a été compté ici. Charbonnier, Charbot, il y a eu du Charbot et du Charbonnier. Donc, dans les stats, ça, c'est un peu compliqué. Et Larsonneur a été cité également beaucoup. Donc, voilà. On a eu à peu près une 30-35 propositions. Et finalement, beaucoup se rejoignent, c'est assez intéressant à voir.
Et assez logique aussi, parce que finalement, il n'y a pas tant que ça de possibilités. Hein.
Non.
Il y en a eu voilà, une trentaine de très bons joueurs à Brest, mais sûrement pas plus.
Non, mais ça montre quand même qu'on a réussi des coups, on a eu des joueurs intelligents, on a eu des joueurs sur lesquels dans lesquels on peut être fier finalement sur cette décennie, c'est passé très vite. Sur cette décennie, c'est 4 ans Ligue 1, 6 ans Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Ça correspond finalement à ce qu'on est, quoi. Je veux dire, un club entre les deux, peut-être un petit peu plus un club de Ligue 2 encore. Mais il faudra également, là on parle des joueurs, sur la décennie, peut-être qu'on pourrait faire un petit bilan des infrastructures, de l'évolution du club. Ça a quand même progressé, je trouve. Le club progresse et tend aujourd'hui vers davantage de professionnalisme, même si on en est encore loin d'être un grand club de foot français. Hein. Mais au niveau des infrastructures, c'est mieux. Au niveau, je trouve que de la direction, c'est plus sérieux.
Pour résumer rapidement, au niveau des infrastructures, en 2010, on s'entraînait encore à Penellen.
Oui.
Donc ça donne un peu une idée globale choses et de l'évolution. C'est d'ailleurs, je pense, de plus en plus rapide,
en
ce
2015.
Qui est plutôt agréable.
Oui, bien sûr. Et le centre de formation est apparu dans ces années-là aussi.
Tout à fait. La pelouse hybride, on ne joue plus sur du sable, ce qui était quand même une progression assez nette.
Voilà, il faut aussi. On est repassé aux couleurs rouges au début de la décennie. On jouait en blanc encore.
On a changé de logo aussi.
Changé de logo, voilà. Le stade, en revanche, c'est toujours le serpent de mer. Peut-être que si jamais, bon, je pense que Brest-Tonnerre dans 10 ans n'existera pas, hein, mais sait-on jamais. Peut-être que en 2030, ils parleront également à un autre podcast parlera du club et dira que il y a toujours pas de stade à Brest. J'ai un peu de mal à y croire à cette affaire. D'ailleurs, si Gérard Le Saint veut venir nous donner des scoops, il est le bienvenu. Sinon, petit exercice dont on n'avait pas prévu l'idée, mais toi, voilà, comme ça, au débeauté, comme je te demande, tes 2-3 meilleurs souvenirs de cette décennie.
Ouf. Alors, j'étais pas au stade, mais le Brest-Saint-Etienne.
Ouais.
Parce que. Enfin, justement, j'étais pas au stade, mais je me souviens quand même où j'étais. Donc ça veut dire quelque chose, je dirais.
Oui, parce que tu te souviens pas forcément d'où t'étais pour un Brest-Arles-Avignon.
Je dirais le Brest-Lorient de l'année dernière.
Ah ouais.
En plus, d'une, c'était un derby. De deux, c'était un samedi à 15h, donc sûrement l'horaire idéal pour le football.
Vu la météo aussi.
C'est vrai. Et ça... Enfin, c'était en novembre ou en octobre.
Octobre.
Et du coup, ça lançait la saison, quoi.
Ça.
Je pense que ça nous plaçait comme un des prétendants sérieux à la montée. Et au final, on est monté, donc c'était assez vrai. Et peut-être le... Alors, ça, c'est une défaite, mais le Tour de Coupe de France l'année dernière à Rennes, c'était quand même un beau souvenir pour moi. Rien que quand on met 2-0, c'était bien. On se voyait déjà... au tour suivant, mais globalement ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué à un club de Ligue 1. C'était un derby, c'était un début janvier, on avait fait le déplacement, c'était agréable, le parquage était pas mal plein, l'ambiance était bonne. Malheureusement, il n'y a pas eu le résultat, mais c'était vraiment un beau souvenir. Et entre les deux, voilà, j'ai pas trop de souvenirs. Même la montée en 2010, je me souviens pas trop de ce que je faisais, ce qui est assez paradoxal. Mais mes meilleurs souvenirs, je dirais, sont dans les dernières années, les années proches.
Ouais, c'est logique. C'est plus facile de suivre le club aussi. Plus de médias, les réseaux sociaux, on est plus dans le truc.
C'est vrai, bah, la preuve, le Brest-Saint-Etienne, je l'écoutais à la radio. Maintenant, il y a peu de chances que j'écoute un match à la radio. Malheureusement, presque, parce que c'était quand même.
Plus Dijonais.
Et bah, du coup, toi, tes meilleurs souvenirs?
En tant que bon couillon, j'ai pas du tout réfléchi en te posant la question. Moi, je pense qu'effectivement, le Brest-Saint-Etienne de 2010, lorsqu'on prend la tête de la Ligue 1, reste dans mes meilleurs souvenirs, hein, de cette décennie. Il y avait tout. J'étais au stade. Hein, le vent, la pluie, la fin de match, les buts qui viennent sur la fin. Bon, c'était
Des beaux
vraiment.
buts en plus.
Ah, des beaux buts, c'était vraiment génial. Sinon, dans les excellents souvenirs, je dirais, je suis obligé de, désolé, hein, d'être comme toi, mais le Brest-Lorient, de Bad Lorient comme
Non,
ça.
on va pas inventer les bons souvenirs non plus.
Non, non, c'est ça, le Brest-Lorient de l'année dernière, le 3-2, c'était vraiment quelque chose. Et je dirais peut-être le Brest, peut-être que je dirais le Brest-Tours, davantage que le Brest-Niort, parce que le Brest-Niort, c'était une deuxième montée, mais le Brest-Tours, la première montée, moi, je voyais Brest, enfin, je voyais en fait le Stade Brestois et je voyais le foot dans Ligue 1 à côté. Et je me rendais compte que finalement les deux allaient être de la même chose, c'est-à-dire que Brest allait monter en Ligue 1, et je le voyais peut-être plus avec un regard encore pas d'enfant, mais de un peu émerveillé. Et bon, là, quand on est monté l'année dernière, j'étais vraiment très heureux,
On avait déjà vu en gros.
voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, même c'est le Brest-Tours et le Brest-Niort on avait passé. En plus de Brest-Niort. Je sais pas si tu te souviens, mais à la fin du match, bon, énormément d'attentes, beaucoup de pluie. Enfin, voilà,
Un feu d'artifice qu'on ne voit pas parce que le toit de la RDK est trop bas.
c'est ça. Donc peut-être, voilà. Après, sinon, d'autres bons souvenirs comme ça quand j'y pense. Hein, si on réfléchit à un déplacement à Niort où on était sous la pluie, où j'étais avec toi, c'est des matchs. En fait, c'était pas des matchs qui m'ont marqué, mais c'est dans le déplacement, le côté un peu cool, même à Rouen, je sais pas si tu te souviens, quand on était sous la pluie pendant tout le match, c'était des moments sympas. Je trouve que voilà, on a vécu des moments sympas avec le stade pendant cette décennie, d'autres moins sympas. J'ai des souvenirs vraiment terribles, hein, notamment du Brest PSG en Coupe de France, où les tarifs sont exorbitants, où il y a 7000 personnes au club, on prend une raclée, vraiment on était au plus bas. Le déplacement à Strasbourg, qui, avec le recul, me fait quand même rire, et j'ai des bons souvenirs d'un côté, mais d'un autre côté, bon, c'était quand même particulier, on va dire, et surtout le traitement après de l'affaire qui était tellement éloigné de la réalité. S'il y avait eu le podcast à l'époque, on aurait pu laver notre honneur. Et un mauvais souvenir, bah, c'est toute la période, le retour d'Alex Dupont, que j'ai pas du tout aimé.
Là, du coup, enfin ouais, c'est vraiment un mauvais souvenir global,
C'est ça.
plus que des mauvais souvenirs de match par match.
C'est
Parce que
ça.
moi j'ai vraiment un blackout de cette période.
C'est vrai que bah, il fallait trouver la motivation parfois pour aller au stade. J'ai pas raté de match, mais il y avait des matchs, des Brest, Arles, Avignon justement en Ligue 2, voilà, des trucs. Et tu regardes les images, elles sont encore disponibles sur YouTube. Et j'encourage les gens à jeter un œil pour voir l'évolution et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc quand on voit les gens qui gueulent, qui râlent, qui disent que c'est pas bien aujourd'hui, bah, allez voir ces matchs de 2015-2016. Ouais. Après cette décennie, on a également découvert des stades. Personnellement, j'en ai vu pas énormément, mais plus de déplacements finalement en Ligue 2. J'ai vu le stade de Charletti, Paris FC, le stade de l'Aube à 3, Niort deux fois,
La
Rouen,
Méno.
la Méno, ouais, bien sûr, Laval, but à Laval. Après, on a vu Rennes également en Coupe, on a vu Lorient évidemment, on a vu Guingamp en contre-Grâce en Coupe de France, Angers, hein, on y était également. Donc quelques déplacements plutôt sympas, et j'espère bien d'autres qui viendront dans cette deuxième partie de saison. En tout cas, ça permet de voir un peu du paysage, de rencontrer des gens. Et le podcast aussi, finalement, est un bon souvenir lié au stade, puisqu'on a rencontré plein de gens avec le podcast. On a pu parler à des gens de la France entière, des clubs entiers. Et c'est un projet qui quand même, est plutôt sympathique.
Et je rajouterais un dernier bon souvenir par rapport à un match particulier. Alors c'est un peu paradoxal parce que voilà, la finalité n'est pas bonne, mais c'est le Brest-Gazélec, Ajaccio.
Ah ouais, c'était vraiment. Je pense que j'ai rarement eu autant d'émotions sur ce match. T'as raison, c'était quelque chose.
C'était très particulier,
Ah
notamment quand il y a une dizaine de minutes où on est en Ligue 1.
ouais. Oui, il y avait une ambiance de folie.
C'était assez incroyable. Malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, la finalité n'était pas bonne, mais c'était Je trouve que cette être dans la course sur une dernière journée avec tous les matchs en même temps, c'est à faire une fois dans sa vie, peut-être.
Surtout qu'on fait en étant du mauvais côté, donc c'est dur, mais à la fois c'est beaucoup d'émotions, et c'est aussi ça, c'est le sport finalement, de se dire que bah, tu espères quelque chose, tu peux être du côté des vainqueurs, c'est très beau quand tu es du côté des vainqueurs, on l'a vu l'année dernière, et peut-être que c'est aussi grâce à cette défaite, enfin cette victoire contre Gazélec, mais cette non-montée, qu'on apprécie plus et qu'on a réussi à monter l'année d'après en étant encore plus serein, parce que finalement, même si moi j'étais stressé jusqu'au bout, hein, tu as pu suivre ça. On est quand même monté un peu de manière beaucoup plus à l'aise. Et je rappelle également, pour je me permets, hein, si jamais des auditeurs lensois nous écoutent, que cette soirée, Lens n'est pas monté à la dernière seconde également. C'est rigolo.
Oui, c'était Amiens qui est monté à la place.
Oh, le but aviennois.
Ça doit être dur mentalement.
Ah, non,
mais ça fait qu'aujourd'hui, Lens est un club de Ligue 2.
Oui, et on espère qu'il le sera encore longtemps.
C'est ça. Franch, merci. Merci bien d'avoir fait cette petite heure de podcast avec moi.
Merci à toi, merci à Yann aussi d'avoir un petit peu récapitulé les équipes des gens, hein, qui ont été finalement assez proches des nôtres.
C'est ça. Bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos auditeurs pour l'année à venir, la décennie à venir?
Déjà, de manière très simple, on leur souhaite à tous une excellente santé, c'est vraiment le plus important. Et ensuite...
Le plus important, le foot quand même.
Oui, non, mais le football passant après, mais en tout cas, beaucoup de bonheur au stade, beaucoup de un maintien. Et je pense que si on se maintient, on sera tous très très heureux et ça ouvrira de nouveaux horizons à Brest.
Franch, merci.
Merci à toi.
Et à la prochaine.
Ouais,
à la prochaine. À l'année prochaine.
Ah, terrible de conclure un podcast comme ça, c'est terrible.
Allez Brest quand même.
Ouais, allez Brest, bonne année 2020 à tous. Et ciao. Yann aurait dit Kenavo.
Dans le bas de la croisière et dans la planche baleinière, chambouer notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.